Le folklore japonais déborde d'imaginaires fantastiques. Les yokai et autres apparitions hantent depuis longtemps déjà la littérature et le cinéma, souvent par le concours de jeunes femmes aux cheveux noirs, au passé triste et au regard inquiétant. Mais ces légendes sont parfois rattrapées par la réalité, quand le tragique s'invite dans un quotidien marqué par la catastrophe naturelle et quand le fantôme prend l'apparence d'un proche ou d'un ami. Dans d'autres cas, le fantastique prend une ampleur épique quand il suggère l'existence d'une civilisation ancienne, juste sous nos pieds. L'euphorie des découvertes se heurte alors aux réalités scientifiques. Alors que l'ère essaye à laisser cette année la place à l'ère Reiwa, ce symbole de renouveau risque de porter avec lui les traces d'un passé riche que nous allons effleurer ce soir.
Je suis Mathias.
Je suis Charles.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. Les fantômes du tsunami. À la suite du séisme et du tsunami qui ont ravagé le Japon en 2011, d'étranges phénomènes ont été rapportés dans les zones les plus sinistrées du pays. Parmi les plus de 18 000 victimes du désastre, certaines âmes seraient restées sur Terre, errant entre les décombres, et à l'arrière des taxis. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur un numéro de l'Obs. Alors c'est pas un magazine que j'ai spécialement l'habitude de lire, mais j'ai été attiré par un appel de couverture. Ça disait « Japon, le téléphone qui parlait aux morts ». Alors je me suis dit qu'avec un titre pareil, ça ferait une bonne histoire pour le Bureau des Mystères, alors je me suis plongé dans la lecture de cet article, et j'en suis ressorti avec des frissons. Mais pas des frissons d'angoisse, plutôt des frissons d'émotion. En fait, le téléphone qui parlait aux morts, c'est une petite cabine téléphonique artisanale plantée au milieu du jardin d'Itaru Sasaki, un septuagénaire du village d'Otsushi. Le vieil homme l'avait construite de ses mains après la mort de son cousin, emporté par un cancer. Pour lui, c'était une manière, je le cite, de « continuer la conversation ». C'est ce qu'il a dit à l'Obs. C'était au début de l'année 2011, et il ne se doutait pas que quelques mois plus tard, une catastrophe naturelle changerait à jamais le visage de toute sa région. Le 11 mars 2011, au large des côtes est du Japon, se produit un tremblement de terre dévastateur. Sa secousse principale, d'une magnitude de 9,1 sur l'échelle de Richter, se ressent jusqu'à Beijing en Chine. Un tsunami se forme. En moins de 10 minutes, il atteint les côtes de la région de Tohoku, située à une centaine de kilomètres de l'épicentre du séisme. Des vagues de 15 mètres de haut, certaines y atteignant même les 39 mètres, détruisent tout sur leur passage. Des milliers de victimes meurent ou disparaissent en quelques heures. En tout, il y aura plus de 18 000 victimes. Au sud de la région de Tohoku, le tsunami généré par le tremblement de terre provoque, par un apocalyptique jeu de dominos, l'accident nucléaire de Fukushima. En ce 11 mars 2011, le Japon est frappé par une des plus grandes catastrophes naturelles de son histoire, dont il subit encore les conséquences aujourd'hui. À Otsushi, le petit village d'Itaru Sasaki, la moitié des habitants sont morts à cause du tsunami. Itaru Sasaki perd de nombreux proches, dont son meilleur ami. Lorsqu'il retrouve et identifie finalement son corps, le 20 mai 2011, le vieillard ressent le besoin d'aller lui parler dans sa cabine téléphonique. Il attrape le combiné, relié au vide, et exprime son deuil. Peu à peu, d'autres habitants des environs suivent son exemple. Le téléphone qui parlait aux morts, que l'on appelle là-bas le téléphone du vent, est né. Aujourd'hui encore, des personnes viennent de tout le Japon, voire de l'étranger, pour s'installer quelques instants dans la cabine téléphonique d'Itaru Sasaki et parler avec les défunts. En 2016, la chaîne nationale NHK a même consacré un documentaire au téléphone du vent, dans lequel des personnes ont accepté d'apparaître en train d'appeler leurs proches disparus. Les images sont poignantes, mais n'ont rien de surnaturel. Évidemment, personne ne répond à ces appels, si ce n'est le souffle du vent. À Tagajo, en revanche, des pompiers ont eu quelques sueurs froides lorsqu'ils ont commencé à recevoir des appels téléphoniques provenant de maisons emportées par le tsunami. Des moines se seraient ensuite rendus sur les ruines afin d'effectuer quelques prières pour les âmes des anciens habitants. Les mystérieux appels auraient ensuite cessé. Cette histoire nous vient de Richard Lloyd Parry, un journaliste américain qui vit au Japon. En 2017, il a publié un livre, « Les fantômes du tsunami », sur la lente reconstruction du pays après le cataclysme de 2011. Pour son ouvrage, il est allé à la rencontre de l'abbé Taiyo Kaneta, un religieux qui a créé avec des moines un café itinérant. Son objectif était d'aller engager la conversation avec les survivants du tsunami, pour qu'ils puissent s'ouvrir sur leur traumatisme au lieu de se renfermer sur eux-mêmes. Autour d'une tasse de thé, et parfois d'un petit gâteau, Taiyo Kaneta a recueilli de nombreux témoignages qui font froid dans le dos, et qu'il a rapportés à Richard Lloyd Parry. Sur des plages, comme à leur domicile, dans les rues des villes ravagées par le tsunami ou au bureau, de nombreux Japonais ont affirmé qu'ils avaient assisté à des apparitions fantomatiques de membres de leur famille, d'amis, de voisins et même d'inconnus. Il y a par exemple cette histoire survenue dans un camp de réfugiés à Onagawa, une zone particulièrement ravagée par le tsunami. Les habitants d'un logement temporaire ont raconté qu'ils avaient vu leur ancienne voisine entrer dans leur séjour. Passé la stupeur, ils ont pris le thé avec elle comme si de rien n'était. Personne n'a osé lui dire qu'elle était morte. Lorsqu'elle est partie, les coussins sur lesquels elle s'était assise étaient imbibés d'eau de mer. Un fonctionnaire de la ville de Soma a de son côté raconté qu'il avait aperçu, près d'une des côtes dévastées, une femme seule dans une robe rouge. Elle se trouvait loin des habitations et n'avait pas de moyens de transport, comme si elle était simplement apparue là. Lorsque le fonctionnaire regarda à nouveau dans sa direction, après avoir observé les environs, elle avait disparu. L'abbé Kaneta ne compte plus les histoires de ce type. Une adolescente effrayée par une silhouette dans sa maison, un homme qui se plaint d'une créature qui l'écrase la nuit, un quadragénaire qui assure voir les yeux des morts dans les flaques d'eau les jours de pluie. Si ces phénomènes semblent apparaître à n'importe qui, une catégorie de la population semble plus touchée que les autres. Les chauffeurs de taxi. En 2016, une étudiante en sociologie de nom de Yuka Kudo s'est fait remarquer par une enquête réalisée dans le cadre de sa thèse. Cette étudiante de l'université Tohoku Gakuin de Sendai a interrogé 100 chauffeurs de taxi des environs d'Ishinomaki, une ville où plus de 2% de la population a été décimée en 2011. Sur les 100 chauffeurs interrogés, 7 ont affirmé avoir déjà pris un passager fantôme. Selon Yuka Kudo, ils n'ont pas ressenti de peur en faisant ces rencontres. Ce sont au contraire des moments qu'ils chérissent, qui les font se sentir privilégiés. Mais à lire leurs témoignages, on ne peut pas s'empêcher de frissonner. L'un d'entre eux a raconté avoir pris dans son taxi une femme près de la gare d'Ishinomaki, quelques mois après le tsunami. La cliente lui a donné une adresse située dans le district de Minamisoma, qui était totalement rasée. Le chauffeur lui a assuré qu'il n'y avait plus rien de debout là-bas, et la femme lui a alors demandé « Est-ce que je suis morte ?» Lorsque le chauffeur s'est retourné, la cliente avait disparu. Il y a aussi cet homme à l'air triste, qui a embarqué dans un taxi, avant de disparaître à mi-parcours. Le chauffeur, touché, avait décidé de rouler jusqu'à l'adresse indiquée. Arrivé devant la maison détruite, il avait ouvert la portière pour déposer symboliquement son passager fantôme. 8 ans après le tsunami, des témoignages comme ceux que je viens de rapporter continuent d'affluer dans la région de Tohoku et dans les environs de la centrale de Fukushima. Ce phénomène n'intéresse pas que les religieux comme l'abbé Kaneta. Des psychiatres se sont également penchés sur la question pour essayer de comprendre, de trouver une explication à ces apparitions. Keizo Hara, psychiatre à Ishinomaki, a donné une piste plutôt convaincante. La plupart des personnes qui assurent avoir vu des fantômes seraient victimes de stress post-traumatique. Voici ce qu'il a expliqué à Paris Match, je le cite. « Les lieux où les gens voient des fantômes sont ceux où le tsunami a été le plus dévastateur. Nous pensons que ces visions sont peut-être une projection de la terreur et des angoisses associées à ces endroits. » Si l'on pourrait croire que le stress post-traumatique se déclenche peu après l'événement traumatisant, Keizo Hara a expliqué que ce n'était pas toujours le cas. Il faut, explique-t-il, du temps au stress post-traumatique pour émerger chez des gens qui vivent encore dans des habitations de fortune et qui constatent que rien n'a changé depuis le séisme. Et compte tenu de la lente reconstruction des zones détruites, cela devrait malheureusement continuer ainsi. Si le stress post-traumatique peut expliquer certaines apparitions, qui ne seraient alors que des hallucinations, d'autres faits sont plus troublants. On pense par exemple à la personne qui assure qu'un esprit s'assoit sur elle la nuit. Mais en réalité, on réalise bien vite que cela correspond tout simplement à une paralysie du sommeil. Je ne m'explique pas, en revanche, le fantôme qui laisse de l'eau salée sur un coussin. Je ne l'ai pas évoqué jusqu'ici, mais il existe un troisième type de phénomène paranormal depuis le tsunami, la possession. Taiyo Kaneta raconte, dans le livre de Richard Lloyd Parry, un exorcisme qu'il a pratiqué sur Rumiko Takahashi, une jeune infirmière de 25 ans qui vivait à Sendai. Selon lui, Rumiko aurait été possédée par au moins 20 victimes du tsunami avant qu'il ne la libère à l'été 2013. L'un des esprits a particulièrement marqué Kaneta. C'était celui d'un homme d'une quarantaine d'années qui cherchait désespérément sa fille pour essayer de la protéger avant l'arrivée des vagues. Kaneta lui a révélé qu'il était déjà mort et lui a demandé de dire où il se trouvait. « Je suis au fond de la mer », lui a répondu l'esprit. « Il fait très froid. » Depuis le tsunami, les exorcistes ne chôment pas. Certains affirment qu'ils chassent réellement des esprits. La prêtresse Shinto Kansho Aizawa, par exemple, a affirmé qu'elle voyait régulièrement des corps coupés en deux, des spectres sans bras ou sans jambes, dans les zones dévastées par les vagues. Un révérend chrétien a raconté à Vie Australienne que les gens auxquels il vient en aide voient des yeux dans les ténèbres de la nuit. Ils ont l'impression que quelque chose attend dehors. Ils entendent des voix et aperçoivent des spectres marcher sur la plage. Reste à savoir s'ils sont bien réels ou imaginaires. Taiyo Kaneta n'a pas voulu trancher. Voilà ce qu'il a déclaré dans le livre de Richard Lloyd Parry. Beaucoup de croyants se disputent sur la question de savoir s'il s'agit réellement des esprits des morts. Je n'entre pas là-dedans. Parce que ce qui compte, c'est ce que les gens voient. Les survivants n'ont pas eu le temps de leur dire au revoir. Tous les gens qui ont perdu leur famille et tous ceux qui sont morts ont des liens très forts. Il est inévitable que des fantômes apparaissent. Je ne peux pas m'empêcher de trouver un parallèle entre ces effrayantes histoires de fantômes et le défilé de personnes qui vont trouver du réconfort dans la cabine téléphonique du vieux Hitaru Sasaki. Que ces gens voient ou entendent réellement des fantômes importe peu. L'essentiel se trouve selon moi ailleurs. Il se trouve en fait dans cet espoir, ou plutôt ce désespoir, suivant comment on se place, que les disparus soient encore là, quelque part dans le vent. Cette histoire, elle m'a beaucoup ému quand je l'ai lue. D'abord celle de la cabine téléphonique d'Hitaru Sasaki, et ensuite toutes ces histoires de fantômes. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de tout ça, je crois que c'était dans un numéro de la Nuit Originale où il y avait Boulet qui parlait d'histoires de taxis qui prenaient des fantômes. Ça m'avait déjà touché à l'époque. En tombant sur cet article de l'Obs, ça m'a rappelé ça, donc j'ai voulu en savoir plus et je me suis renseigné. Et en lisant tous ces témoignages, je m'attendais à avoir peur, évidemment. En fait, c'est ce qui m'a accueilli, c'est que je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas spécialement peur.
Ouais, c'est pas une histoire qui est là pour faire peur. C'est pas des phénomènes, d'ailleurs, qui effraient particulièrement les gens sur place, j'ai l'impression.
Non, pas du tout. Et c'est ça qui est assez troublant, parce que tu pourrais te dire... je vais prendre tout simplement l'exemple du chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi qui prend un passager fantôme. Nous, dans notre imaginaire occidental européen, ça nous rappelle évidemment toutes les histoires de dames blanches, des autostoppeuses fantômes. Et ça, ce sont des histoires qui sont faites pour faire peur chez nous. Là, en l'occurrence, non, ça ne leur fait pas peur. Ils se sentent même privilégiés d'avoir pu prendre un passager fantôme, d'avoir pu partager un moment avec des disparus du tsunami. C'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement émouvant. C'est une histoire que j'avais envie de raconter ici. Et ici, on a l'habitude de dire est-ce que les affaires sont classées, quel est le degré de mystère. Là, on est sur une histoire qui tient purement de la croyance, selon moi. C'est très compliqué de dire est-ce que ça existe ou pas. Bien sûr, on pourrait arguer énormément d'arguments scientifiques. J'ai ce témoignage du psychiatre qui parle de stress post-traumatique. On a d'autres choses qui expliquent certains phénomènes. Mais après, ça reste peut-être des histoires que les gens se racontent et qui prennent vie, ou tout simplement des choses qui existent et que les gens rapportent. Ça, j'avoue avoir du mal à me positionner là-dessus.
Et oui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'expérience du deuil collective, en fait.
C'est ça. Bah, c'est surtout le nombre de témoignages qui est frappant. Tu vois, quand on a cette étude sur les chauffeurs de taxi, où on se rend compte qu'il y en a quand même 7 qui ont vu des phénomènes sur 100, ça fait beaucoup quand même, tu vois, ouais, 7% ouais. C'est 7% sur l'étude de personnes qui affirment avoir vu des fantômes, c'est beaucoup.
Et la personne qui a mené cette étude, elle l'a faite du coup uniquement dans la région, c'est ça ?
Ouais, uniquement dans cette région-là, même autour de la ville où se situe son université.
Dans la région sinistrée, du coup.
Dans la région sinistrée. Mmh. C'était le but, en fait, cette étude qu'elle a faite, cette étudiante en sociologie, elle arrive après les premiers articles qu'il y a eu de témoignages de personnes qui disent avoir vu des fantômes. C'est quelque chose qui n'est pas apparu tout de suite, d'ailleurs. Dans les jours, dans les semaines qui ont suivi le tsunami, on n'a pas eu ce genre de témoignages. Ça a vraiment commencé à apparaître plusieurs mois après, au minimum, et même parfois plusieurs années après. Le grand pic de témoignages, c'était en 2016, donc c'est 5 ans après le tsunami.
D'accord. Ouais, ce qui peut en partie, à mon avis, s'expliquer par le fait que les gens qui ont été touchés par cette catastrophe-là sont restés dans une situation de précarité aussi longtemps après les faits, ce qui, en la plupart du temps, en situation de précarité, ne permet pas d'avoir cette expérience cathartique. Ils sont toujours dans un stress qui est lié à la catastrophe et à l'événement, ce qui du coup ne permet pas, on va dire, de tout exprimer. Donc ça peut paraître aussi logique que tout ça soit arrivé assez tard, finalement.
Est-ce que c'est ce qu'explique le psychiatre dans une des nombreuses interviews qu'il a accordées, parce que c'est un monsieur qui a pas mal parlé sur ces histoires-là de fantômes. Il expliquait que justement c'était ça, le stress post-traumatique ne se déclenche pas immédiatement après le traumatisme, il peut se déclencher plusieurs années après, et c'est un des facteurs qui déclenche ça, c'est comme tu le dis, le fait qu'ils sont toujours dans ces environnements-là qui sont dévastés, et ils constatent que rien n'a changé depuis 5 ans. Et c'est le fait de réaliser ça brutalement d'un coup qui peut déclencher un stress post-traumatique et qui peut te faire voir des choses. Et après, c'est largement influencé par les cultures qu'on peut avoir. Nous, on verrait peut-être pas
Oui.
exactement ça. Eux, en l'occurrence, il y a tellement un traumatisme. Déjà, l'eau dans l'imaginaire religieux au Japon est quelque chose de très présent. Mais en plus, du coup, avec le traumatisme qu'il y a eu par rapport aux vagues qui atteignaient des dizaines de mètres, il y a toujours cet élément de l'eau qui apparaît. Les personnes qui témoignent à travers la jeune femme possédée disent qu'ils sont au fond de la mer. On a cette trace d'eau salée qui reste sur un coussin.
Ça vient des entretiens de la sociologue?
Non, ça vient des entretiens que Richard Lloyd Parry avec Tayo Kaneta. Tayo
D'accord.
Kaneta, donc, qui est donc l'abbé qui avait ce café itinérant, auquel, bah, en fait, ça, c'est justement, ça, c'est intéressant, je trouve, le fait que les gens ont tendance à ne pas vouloir évoquer ces sujets-là, et lui, avec d'autres amis religieux, ont lancé ce café itinérant pour justement permettre de débloquer la parole, que les gens en parlent, et qu'ils commencent à faire leur deuil ensemble, quoi. Ce qui n'était pas évident au début, puisque c'est pas toujours facile de, surtout quand on a des grands événements comme ça, de s'ouvrir, quoi. C'est des moments compliqués. Et c'est au cours de ces entretiens-là, au cours de ces discussions avec les gens, qu'il a pu recueillir énormément de témoignages, dont celui-là, qui, moi, m'a particulièrement frappé, puisqu'on a cette notion de la trace qui reste. Et je trouve que, métaphoriquement, c'est très beau de se dire,
Ouais, c'est vrai.
elle n'est plus là, mais c'est comme si elle était là à travers cette trace qui reste sur le coussin. Non, ce sont des histoires toujours très émouvantes, mais voilà, qui sont un petit peu amères, mais qui rarement, moi personnellement, m'ont fait peur. Donc le niveau de mystère, évidemment, en fait, c'est surtout compte tenu du nombre de témoignages que je trouve que c'est très élevé. Mais après, voilà, on est dans un traumatisme de grande ampleur, hein, c'est un tsunami comme ça, c'est impressionnant, hein. Mais bon, c'est sûrement l'expression de leur deuil qui font à leur manière. Moi, je sais pas comment je réagirais dans leur cas comme ça. Il y a des gens qui se réveillent dans une ville, tu vois, par exemple la grande ville où les chauffeurs de taxi voient souvent des fantômes, 2% de la population qui meurt en quelques jours. Donc ça veut
Ouais,
dire que
ouais,
tu connais forcément des gens qui ont disparu,
ouais.
ou tu connais forcément quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. Et là, je parle de la grande ville où il y a 2%, mais il y a des villes qui ont été entièrement rasées par le tsunami. Il y a un documentaire dont je parlerai dans les recommandations qu'on fera dans cet épisode, où on voit notamment le témoignage d'un père de famille qui, enfin de deux pères de famille qui ont chacun perdu leur fille, et qui racontent que quasiment tout le monde dans leur village a perdu quelqu'un, et qu'ils voient régulièrement, et ça c'est un truc, c'est pareil, c'est émouvant, ils voient des fantômes qui reproduisent ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire que on a dans ce documentaire un dialogue entre une femme et son mari, ceux qui ont perdu leur fille, et sa femme dit ah, je sais pas si t'as vu, il y a machin qui m'a raconté que à côté du magasin du restaurant de nouilles qu'il y a là-bas, c'est qui était très populaire et qui a été rasé par le tsunami, bah il y a toujours les gens qui font la queue. Et en fait, c'est toujours pour eux des esprits qui font la queue et qui continuent à vivre leur vie en ne sachant pas qu'ils sont morts. Et ça, c'est un truc qui revient souvent dans les témoignages, le fait que le fantôme n'a pas conscience de sa propre mort. Et je trouve que ça évoque quelque chose qui est que le trauma a été tellement soudain, c'est-à-dire qu'il y a quelques minutes entre le moment où il y a le séisme et le tsunami qui ravage tout, ça a été tellement soudain que même les fantômes n'ont pas eu le temps de, enfin que même les morts n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Donc voilà, je pense que l'affaire ne sera malheureusement jamais classée, puisque c'est un traumatisme qui continue aujourd'hui, et selon Canetta, on n'a pas fini d'entendre des témoignages comme cela. Parce que plus le temps passe, donc suivant les explications, plus le temps passe, plus les morts de toute façon restent et les témoignages vont s'accumuler, et d'un point de vue psychiatrique, plus ça continue, plus il y aura de cas de stress post-traumatique, puisque malheureusement la reconstruction est très lente.
Bah, l'affaire, elle est classée parce qu'elle s'explique, en fait.
Oui.
C'est ça, je pense, qu'il faut retenir, c'est que l'affaire en soi, elle est classée parce que on est davantage dans l'expérience, comme je disais, collective du deuil que dans quelque chose de surnaturel. Mais là où elle est pas classée, c'est qu'elle va pas forcément s'arrêter dans le temps. Elle est pas forcément limitée dans le temps.
Non, non, c'est voué à continuer, c'est certain, deux points de vue, hein, du point de vue scientifique comme du point de vue religieux, du point de vue spirituel, ça, dans les deux cas, la vie elle-même, ça va continuer, on aura d'autres témoignages comme ça ces prochaines années.
La cité engloutie de Yonaguni. Au large du Japon, près de Taïwan, englouti dans les eaux de Yonaguni, se trouve un mystérieux édifice. Selon certains, son origine est humaine et sa construction daterait de plusieurs millénaires. Mais les origines de la structure font en réalité débat. Est-ce la preuve d'une civilisation disparue ou simplement un amas rocheux façonné par les courants sous-marins? Nous sommes en 1986, au sein de l'archipel Sakishima. L'ensemble de petites îles de cet archipel est en fait frontalier de la mer des Philippines et appartient à la préfecture donc japonaise d'Okinawa. Au sein de cet archipel se trouve donc Yonaguni, une toute petite île japonaise de moins de 2000 habitants, 1700 je crois au dernier recensement, située donc à l'extrême sud-ouest du pays. C'est un des points les plus à l'ouest, c'est peut-être même le point le plus à l'ouest du territoire japonais, et qui est donc seulement à une centaine de kilomètres de Taïwan. On parle d'ailleurs sur cette île, on parlait un dialecte, le Yonaguni, qui est en train de disparaître. C'est dans cette région que vit Kiyashiro Aratake. L'homme fait du repérage, c'est son travail, il fait du repérage pour un tour opérateur qui organise des visites dans la région. En 86 donc, alors qu'il plonge autour de l'île de Yonaguni pour organiser des séances de balade avec les requins marteaux, il fait du petit repérage pour voir s'il y a effectivement des requins, et effectivement il y a plein de requins marteaux dans cette région-là, il aperçoit une ombre massive qui s'étale sur plusieurs dizaines de mètres sous lui. Il continue de descendre et voit d'immenses pierres formant un ensemble d'édifices. Il parcourt la vaste structure qui se situe à environ 25 à 30 mètres de profondeur. En remontant, il fait quelques recherches, évidemment, et se rend compte que ce qu'il a vu n'a jamais été enregistré nulle part. Kiyashiro Aratake vient donc de découvrir quelque chose, et il va plus tard nommer l'endroit Iseki Point, qu'on pourrait traduire en français par « le lieu des ruines ». Il va falloir attendre quelques années avant que d'autres personnes s'intéressent à sa découverte, il va falloir en réalité attendre le début des années 90. À partir de là, le site va être mesuré, cartographié. L'immense structure sous-marine fait près de 70 mètres de long. Le bâtiment principal, l'édifice principal, fait presque 70 mètres de long. Des maquettes de l'ensemble sont réalisées et permettent de prendre l'ampleur, évidemment, de la chose qui est vraiment, vraiment massive. La structure semble composée d'immenses marches en pierre. Vu de l'extérieur, vu de loin, en fait, on a l'impression qu'il y a comme un immense rocher dans lequel auraient été sculptées d'immenses marches en pierre. Le tout a un aspect très très anguleux, pas forcément symétrique, mais très anguleux. On trouve ce qui ressemble aux ruines d'une immense porte voûtée et un chemin circulaire qui semble entourer l'édifice. Mais ce n'est pas tout. Ont été identifiées au total 10 structures au large de Yonaguni et 5 autres connexes au large de la plus grande île d'Okinawa. Au total, les ruines recouvrent une superficie de 300 mètres par 150 mètres, donc près de 45 000 mètres carrés. Et l'édifice le plus haut mesure environ 5 étages. Donc il faut se figurer, pour les personnes qui n'auraient pas vu de photos, il faut se figurer une pyramide à laquelle on aurait retiré un peu sa moitié du dessus. Et donc cet édifice principal fait environ 30 mètres de haut. Mais pourquoi cet édifice du coup fait tant fantasmer et pourquoi, on va y venir, fait-il tant débat? C'est parce qu'il est, pour certains, la clé de compréhension ou d'explication d'une théorie folle sur un continent disparu, alors qu'il est, pour d'autres, tout simplement, un amas rocheux qui a été sculpté par les courants marins. Le continent disparu, c'est celui de Mu. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, Mathias, du continent Mu.
Alors, ça me parle vaguement. On est un petit peu sur le même délire que l'Atlantide, si je me souviens bien, mais sauf que là, c'est plus amérindien, c'est ça?
C'est, ça se situerait dans l'océan Pacifique. En fait, ce continent, cette civilisation, Mu, c'est une civilisation mythique, donc disparue depuis des siècles dans les eaux de l'océan Pacifique. Ce serait un peuple légendaire du Pacifique qui aurait été englouti dans l'océan. Donc la civilisation et le continent Mu ont d'abord été situés dans les premiers écrits datant du 19e siècle dans l'océan Atlantique, avant d'être relocalisé par James Churchward, un écrivain et colonel britannique, dans le Pacifique. En fait, ça fonctionne un peu de la même manière que l'Atlantide, qui est considérée un peu comme la sœur spirituelle de Mu. Il s'agirait d'une civilisation très avancée, qui aurait notamment été la clé de technologies anciennes, qui aurait permis la construction des pyramides d'Égypte, des pyramides aztèques, et d'autres édifices qui ont en fait longtemps posé question aux scientifiques. Cette civilisation aurait atteint son apogée 50 000 ans avant notre ère. Son continent se serait étendu des îles d'Hawaï aux îles de Pâques. La légende raconte que cette civilisation, qui était alors à son apogée, serait devenue complètement décadente et de ce fait
aurait été puni par les dieux. Les versions plus récentes de la légende penchent pour un tremblement de terre gigantesque et un effondrement des sols suivi d'un tsunami qui aurait fait disparaître le continent sous les eaux. Et donc cet écrivain et colonel James Churchward, qui a popularisé l'idée d'un continent mu, aurait rencontré, dans la deuxième moitié du 19e siècle, un prêtre hindou au cours de ses voyages en Inde. Celui-ci aurait appris à déchiffrer des tablettes, donc James Churchward aurait appris à déchiffrer des tablettes, contenant des informations sur le fameux continent. En réalité, bon, on va se rendre compte qu'il y avait... il a peut-être... tenter de déchiffrer les tablettes, mais il y avait beaucoup d'erreurs de traduction et surtout celle-ci était très incomplète. Mais une des preuves que Churchward aurait avancé à ce moment-là, c'était notamment la présence de rochers de plusieurs dizaines de tonnes dans certaines îles du Pacifique, qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, et qui n'auraient pas pu être amenés là par bateau à l'époque. Ce qu'il se passe, c'est que l'édifice de Yonaguni, si c'en est un, serait l'exemple le plus probant d'une potentielle civilisation disparue. Ce serait la structure la plus massive découverte dans l'océan Pacifique. Du coup, elle active énormément de fantasmes. En réalité, on va voir que le parallèle avec le continent Mu, qui est un continent de légende, hein, qui n'a jamais eu de preuves avérées, est en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît.
Je vous invite quand même à aller regarder les photos de ces ruines qui sont assez impressionnantes. On comprend mieux en les regardant pourquoi on a pu se dire qu'il y avait quelque chose de civilisation.
Alors, attention, parce que c'était quelque chose que je voulais dire un petit peu à la fin de l'histoire. Attention aux photos qui circulent sur Internet, il y en a beaucoup qui sont fausses.
Même dans les articles de presse.
Ah, pas forcément dans les articles de presse, encore que je sais pas, j'ai pas vérifié tous les articles de presse, mais il y a beaucoup de photos qui remontent et qui sont des fakes, ou qui sont tout simplement pas forcément des fakes, mais qui viennent d'autres structures.
D'accord. Prudence donc. Comme prudence, souvent sur ouais. Internet.
Exactement. Plusieurs chercheurs ont écrit sur Yonaguni, notamment Masaaki Kimura, géologiste marin et professeur à l'université de Ryukyu sur l'île d'Okinawa. C'est lui qui va s'intéresser en premier, donc dans les années 90, à la découverte de Kiyashiro Aratake. Il étudie la structure depuis maintenant plus de 30 ans, et pour lui, si on se réfère à ses premiers textes en tout cas, l'origine de la chose est clairement humaine. Le professeur a plongé régulièrement sur le site pendant des années. Il a mené en réalité une centaine d'expéditions pour mesurer les différentes parties et cartographier ensemble. Et c'est notamment à lui qu'on doit la grande maquette qui représente le tout. On le voit, ça pour le coup, vous le trouverez assez facilement sur Internet. Vous trouverez le professeur posant à côté de sa maquette. Mais comme beaucoup de théories de ce genre, le professeur Kimura se fait attaquer sur la validité de ses hypothèses. En fait, son hypothèse principale, ce serait qu'un tremblement de terre, probablement suivi d'un tsunami, comme je disais, aurait fait s'effondrer une partie du littoral et englouti les terres il y a entre 2000 et 10 000 ans. Les constructions auraient d'abord été estimées à au moins 8 000 ans avant notre ère, sachant que les plus vieilles constructions que l'on connaît datent d'environ moins 5 000 avant Jésus-Christ, et sachant que la dernière période glaciaire remonte à il y a 10 000 ans. Donc ça rapprocherait les premières grandes constructions de la dernière grande période glaciaire. Donc l'enjeu, c'est aussi de déterminer s'il s'agit du plus vieux bâtiment jamais observé, en dehors des fantasmes et des théories, qui sont pas des théories du complot d'ailleurs, mais des théories autour du continent mu. En dehors de ça, il s'agit quand même d'estimer s'il s'agit du bâtiment le plus vieux jamais observé. Le professeur Kimura a plusieurs contradicteurs, comme je disais, notamment Robert Scotch. Robert Scotch, donc, qui est professeur de sciences et de mathématiques à l'université de Boston et qui est notamment à l'origine de la nouvelle datation des pyramides d'Égypte. Pour lui, la structure, ce serait en fait un phénomène naturel. Il a organisé, alors il allait beaucoup moins souvent sur le site que le professeur Kimura, mais il a organisé 4 expéditions sur site entre 1997 et 2013, et pour lui, il s'agirait davantage d'un phénomène lié à l'érosion. Son argument principal, c'est que l'édifice semble constitué d'un seul et même bloc de pierre. Alors que s'il s'agissait d'une construction humaine, on pourrait observer des creux, des jointures, des espaces. Là, en l'occurrence, il n'en est rien, et on ne peut pas d'ailleurs rentrer dans cette structure s'il s'agissait d'une structure. Pour le professeur Scotch, je cite, « C'est une stratigraphie classique pour ce type de pierre, c'est les grès, qui ont tendance à se fendre et à donner des bords très droits, en particulier dans une région avec une activité tectonique très forte. Cela expliquerait donc, en partie, les parois obliques qui semblent comme taillées par les humains. C'est la position de la majorité, de l'immense même majorité des géologues du monde antique qui se sont penchés sur la question, et la position en fait de Robert Skosch fait plutôt consensus, et celle du professeur Kimura l'a fait beaucoup moins. Mais il n'empêche que Kimura a identifié autre chose lors de ses expéditions, en gardant en tête aussi qu'il y allait beaucoup plus souvent, des traces de déplacement, des traces de carrière en fait dans les roches, et des caractères gravés sur des visages sculptés. Pour lui, certaines des roches sous l'eau sont entièrement sculptées et ressemblent à des animaux. Alors il a ramené plusieurs de ces pierres dans son laboratoire, il estime qu'elles viennent à coup sûr d'une culture asiatique et qu'elles n'ont pas été importées à cet endroit plus tard. Il ne s'agit pas non plus d'un bateau qui à un moment donné se serait échoué en transportant certaines cargaisons. Il décrit notamment un genre de sphinx qui ressemble beaucoup à une ancienne légende de roi chinois. Il y a aussi un visage sculpté que Kimura a d'ailleurs nommé Œil de Jacques, en hommage à un plongeur du même nom, Jacques Mayol. Mais en regardant bien ces photos, on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'une pierre qui ressemble à un visage qu'à une sculpture de visage. Les yeux ne sont pas complètement à la même hauteur, le visage n'est pas complètement symétrique, alors que à l'époque, on ne représentait pas les visages autrement que de manière symétrique. Le problème, malheureusement, c'est que ces hypothèses pourraient aussi se valider si on trouvait des poteries ou des objets de l'époque, comme des outils, autour du lieu, sous l'eau. Mais ce n'est pas le cas. Pour cause, les courants océaniques sont parfois très forts dans cette région, et on estime qu'au bout de plusieurs milliers d'années, même s'il y en avait eu à l'origine, l'eau les aurait soit détruits, soit emportés. Pour ce qui est de l'engloutissement de la prétendue cité par les eaux, le professeur Kimura se base sur les données existantes des séismes et des tsunamis. Le plus grand tsunami enregistré dans la région date d'avril 1771, avec une vague principale d'une hauteur de plus de 40 mètres. Il aurait été précédé d'un séisme évidemment gigantesque. Il note que la côte est particulièrement sujette à ce genre d'événement et qu'à l'époque, un tel tsunami aurait pu recouvrir tout un pan de terre ou faire s'effondrer en fait un littoral un peu fragile. Évidemment, comme tu le disais d'ailleurs dans ta précédente histoire, le Japon et cet endroit en particulier de l'Asie orientale se situent entre deux plaques tectoniques. Là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est la plaque Pacifique avec la plaque de la mer des Philippines. Et donc l'activité tectonique est suffisamment forte pour que ce genre d'hypothèse soit vraiment probable. Les deux professeurs, Kimura et Skosch, ont discuté par le biais de textes scientifiques interposés pendant quelques années. Et il semblerait au final que la position du professeur Kimura aurait quand même pas mal changé avec le temps. Il a employé le terme ensuite de terraformation pour parler de la structure de Yonaguni. La terraformation qui, en fait, constituerait plutôt un travail des hommes sur le terrain plutôt qu'une structure, un édifice monté à 100%. Donc une roche qui serait déjà là et une sculpture qui se ferait par-dessus ces roches qui sont déjà à cet emplacement. Et peut-être que finalement, les deux positions des chercheurs pourraient se rejoindre. Même s'il s'agissait d'une structure naturelle, cela ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu être retravaillée par l'homme au moment où elle était hors de l'eau, puisqu'il semblerait, en l'occurrence, qu'elle ait été hors de l'eau. Et c'est quelque chose que Robert Skosch va admettre en soulignant qu'il y a une très ancienne tradition dans la région d'Okinawa de modification et d'extension de la nature, ce qui collerait finalement assez bien avec ce à quoi ressemble la structure sous-marine. Une dernière hypothèse serait que le rocher aurait en fait servi de carrière, et que à l'époque où ce rocher, cet immense endroit était hors de l'eau, et bien en fait des hommes seraient venus pour tailler des pierres pour servir à d'autres constructions, à d'autres endroits. Ce qui expliquerait aussi le côté très droit et l'espèce d'effet de marche, l'effet d'escalier qu'on peut observer sur la structure, c'est en fait des blocs de pierre qui auraient été enlevés par les hommes eux-mêmes pour servir à d'autres constructions. Donc, désolé les fans du continent mu, mais il semble que ce ne soit pas encore la preuve que vous cherchiez, parce que, très franchement, cette structure, cet édifice, quand on la regarde, c'est très impressionnant, parce qu'on a en effet l'impression qu'elle a été travaillée de l'extérieur, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un édifice dans lequel on serait allé, dans lequel il y aurait eu des habitations, ou autre chose, c'est-à-dire des espaces de vie, ou quel que soit d'autre. Il n'y a pas de creux, il n'y a pas de trous. Il y a des choses qui ressemblent à des temples, il y a un endroit qui ressemble presque à un stade, mais il semblerait que ce soit des phénomènes qui soient avant tout naturels, et qui auraient été en fait retravaillés pour les besoins peut-être de construction ailleurs, des constructions plus petites, des constructions évidemment plus modestes, et pas quelque chose de l'ampleur de la taille de l'édifice qui a été découvert à Yonaguni. Donc en conclusion, ni l'agence des affaires culturelles du gouvernement japonais, ni la préfecture d'Okinawa ne reconnaissent les restes engloutis de Yonaguni comme des objets culturels, et rien n'a été entrepris pour la conservation du site, et chacun peut aller sur place, et nager, et plonger, et aller voir l'édifice par lui-même.
Ce qui serait vraiment un désastre archéologique si au final on se rendait compte que c'était des vrais restes, quoi.
Ben, si ça avait été de vrais restes, je pense qu'avec les centaines d'expéditions qui ont été menées, on s'en serait rendu compte avant. Là, en l'occurrence, il y a eu tout le temps d'explorer le site, de vérifier ce qu'il y avait autour. Peut-être qu'il a été pillé il y a 100 ans, hein. Après, c'est une possibilité, hein. Mais en l'occurrence, là, si les nages, enfin, si les plongées sont autorisées, c'est qu'il y a pas forcément de risque qu'on considère pas ça comme un site archéologique. Ce qui n'empêche pas, comme je disais tout à l'heure, qu'il peut y avoir des écritures dessus à certains endroits. Aujourd'hui, c'est le district de Yonaguni, du coup, qui possède officiellement les lieux, et donc, comme je disais, tout le monde peut plonger pour aller voir la formation. Comme je disais tout à l'heure, attention aux photos qui circulent sur le web, certaines sont clairement des fakes, et mettent en scène des nageurs à côté de structures qui sont clairement faites par l'homme, ou qui sont des structures qu'on trouve à d'autres endroits, mais pas à Yonaguni. Donc voilà, je pense qu'on peut classer l'affaire, on peut presque la classer, je serais tenté de la laisser un petit peu sur le bureau, parce que, certes, l'hypothèse la plus probable, ce serait cette hypothèse soit d'une carrière, soit d'un rocher retravaillé, mais il semble que, quand même, notamment le professeur Kimura ait encore un petit peu envie d'aller chercher, d'aller explorer. En fait, il en a fait le travail de sa vie, hein. Cette structure, ce que lui estime être une structure ou une terraformation, il en a fait le travail de sa vie, tout simplement. Donc je pense que rien que pour lui, on peut laisser le dossier entrouvert sur un bureau et lui laisser aussi la chance de voir s'il n'y a pas encore des choses à trouver là-bas.
Complètement, parce qu'en plus, c'est pas parce que juste, si c'était effectivement une carrière, ça implique aussi de savoir qui exploitait cette carrière, à quelle époque, de quand est-ce que ça date exactement, est-ce que des constructions ont été faites avec les choses qui ont été extraites de cette carrière et où se trouve-t-elle aujourd'hui. Ça implique beaucoup d'autres questions archéologiques qui sont selon moi très intéressantes. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'amateur de mystère, j'ai aussi envie de laisser le dossier quelque part sur un coin de table en espérant qu'on ait d'autres choses à rajouter à l'intérieur un jour.
Eh bien faisons comme ça alors.
Avant de se quitter, si vous voulez continuer à rester dans l'esprit des histoires qu'on vous a racontées aujourd'hui, on avait quelques recommandations culturelles pour vous. Moi, la première, évidemment, ça va être Les fantômes du tsunami de Richard Lloyd Parry. Alors, j'en ai consulté de nombreux extraits, j'ai pas pu le lire en entier, mais c'est un livre qui parle évidemment de fantômes, mais qui parle aussi et surtout de comment le Japon se relève socialement et politiquement après la catastrophe qui a été le tsunami de 2011. Donc pour ça, c'est très intéressant et ça avait l'air vraiment passionnant dans son intégralité. Je pense que je vais me le procurer en entier pour le lire parce que c'est vraiment frappant. Et évidemment, l'article de Dohan Bui dans l'Obs sur le téléphone du vent qui voilà, m'a permis de commencer à me réintéresser à ces histoires-là. Concernant Fukushima, j'avais aussi un épisode de Dark Tourist à vous conseiller. Dark Tourist, c'est cette série documentaire sur Netflix qui est présentée par David Farrier qui avait déjà fait l'excellent documentaire Tickled. Je sais pas si tu t'en souviens, Charles, de Tickled.
Ouais, je vois Tickled. Il s'est fait la préfecture, en l'occurrence, où s'est déroulée la catastrophe de Fukushima, a voulu porter plainte, je crois, contre David Fire.
Oui, c'est ça.
Netflix.
En fait, dans cet épisode-là, donc, de Dark Tourist, on voit des touristes inconscients qui vont dans les zones irradiées, mais aussi certains mensonges du gouvernement japonais. Et c'est pour ça, justement, que ça a gueulé. En fait, on voit qu'il y a des zones qui sont censées être clean, qui sont encore très fortement irradiées, et même dans les zones de ce qu'ils appellent les zones de retour difficiles, normalement, il est possible de se réinstaller. Le compteur GGR s'affole complètement dans l'épisode. Donc, par rapport à ça, l'agence de reconstruction et la préfecture de Fukushima ont menacé Netflix d'intenter une action en justice, en disant que voilà, ça nuisait à leurs intérêts. Ce qui est compréhensible, mais après, malheureusement, les images parlent d'elles-mêmes. Enfin, tu regardes l'épisode, c'est assez flippant, et tu vois même que les dark touristes, donc les touristes qui sont dans le bus pour aller visiter les zones irradiées en pensant que, comme l'indique le gouvernement japonais, ça va, sont en train de paniquer totalement quand ils consultent leur compteur GGR et qu'ils voient que c'est le double, triple, voire le quadruple de ce qui est censé être le seuil de tolérance
pour se balader dedans. C'est sinistre un peu du coup de faire du tourisme là-bas.
Ouais, non, voilà, moi de base, j'irai pas. C'est pour ça que je parle de touriste inconscient. Enfin, on vous dit que la zone est irradiée, je comprends pas pourquoi vous y allez déjà de base.
Mais, et puis même, aller là-bas pour voir quoi? Sans même parler des radiations, aller là-bas pour voir quoi, c'est...
Après, il y a une espèce de fascination morbide pour ces zones-là. Ça rejoint aussi en partie l'urbex, tu vois, par exemple, de ces zones qui sont vidées d'un coup de toutes les personnes. C'est vrai qu'il y a des images qui sont assez frappantes dans l'épisode de Dark Tourist où on voit David Farrier qui sort du bus à un moment et qui va se balader dans une ancienne salle d'arcade où vraiment le temps s'est figé complètement à l'intérieur. Ouais. Donc il y a des images très urbex à l'intérieur. Donc, je peux comprendre que quand tu aimes les lieux abandonnés, tout ça, tu puisses avoir envie d'aller voir. Sauf que la majorité du tour se fait dans un bus dont tu ne sors quasiment pas. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de ce point de vue-là, quoi. Donc voilà, c'est risqué. Je ne vois pas spécialement intérêt. En plus, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça ne doit pas être donné non plus. Parce qu'il y a un bus, il y a un guide. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que tu vas faire ça exactement.
Ça et en plus, l'urbex, quand même, c'est aussi censé être des visites ou rentrer dans des bâtiments qui sont désaffectés, mais depuis des décennies parfois.
Oui, alors 50. Là, c'est très récent.
Là, c'est morbide aussi parce que c'est vraiment très récent. Du coup, c'est un peu particulier.
Moi, ça me met un peu mal à l'aise, ce genre de choses. Donc voilà. Ce qui m'a mis parfois mal à l'aise, mais dans un autre registre, et qui m'a plus ému, en fait, c'est justement le documentaire dont je parlais tout à l'heure quand je racontais l'histoire des fantômes du tsunami. C'est Brise-Lame. Brise-Lame, j'ai découvert un peu ça par hasard, parce qu'après avoir préparé l'histoire que j'ai racontée ce soir, j'ai voulu voir s'il existait des documentaires, s'il existait des gens qui s'étaient vraiment penchés sur la question au-delà de Richard Lloyd Parry. Et je suis tombé, en faisant des recherches sur Google, sur donc Brise-Lame, un voyage parmi les vivants et les morts dans le Japon de l'après-tsunami, titre complet. C'est un film d'Hélène Robert et Jérémy Perrin. Alors, Hélène Robert, c'est une diplômée des Beaux-Arts, elle est photographe documentaire, elle fait souvent des choses avec la presse écrite, avec l'édition. Elle a notamment fait des reportages photos sur des surveillants de prison, sur des chasseurs en Corse, voilà. Et Jérémy Perrin, lui, est auteur pour des projets culturels. Ils avaient déjà fait un film ensemble qui parlait des légendes animales à Porto, et ils ont décidé de continuer leur collaboration pour faire un autre film. Et en fait, ce film-là, c'est Brise-Lame. En 2016, Hélène Robert est allée au Japon pour illustrer en photo, justement, les fantômes du tsunami de Richard Lloyd Parry. Elle faisait des photos pour l'édition du livre de Richard Lloyd Parry. Jérémy Perrin l'a accompagné, et très vite, ils ont décidé d'enregistrer des témoignages, là-bas. Directement, c'est-à-dire des personnes qui témoignent dans le livre de Richard Lloyd Parry. Donc on voit l'abbé Canetta à l'écran, plusieurs fois. Et on voit d'autres personnes, et ils ont fait un documentaire qui est très spécial, en fait. Ils ont fait quelque chose qui se voulait poétique, plus dans la symbolique, dans les métaphores, tout ça. Donc à l'image, c'est très très contemplatif, c'est assez lent, il y a des images oniriques. Genre, par exemple, à des moments, ils parlent de fantômes qui disent qu'ils sont sous l'océan et qui fait froid. Et en fait, pendant qu'on a ce témoignage-là entièrement en japonais, hein, donc avec les sous-titres, on a une petite musique assez grave, lancinante, et à l'écran, juste des images de méduses très blanches sur fond noir qui apparaissent petit à petit, donc qui évoquent les fantômes métaphoriquement, et qui évoquent l'eau. Donc c'est vraiment un documentaire très beau, c'est très très beau, et c'est plus une expérience visuelle que de l'ordre du... Il n'y a pas de voix off, par exemple. Quand on a l'habitude d'avoir des documentaires où une voix off te guide pendant tout le documentaire, là, pas du tout. On n'entend jamais leur voix, Hélène Robert et Jérémy Perrin. C'est vraiment uniquement les témoignages des personnes qui parlent là-bas, donc l'abbé Canetta, des moments très durs aussi, très bouleversants, où j'en parlais, où on a ces deux pères de famille qui ont décidé de chercher chacun leur propre fille qui a disparu dans le tsunami, où ils racontent leur parcours, qu'ils ont commencé par faire le tour des camps de réfugiés avant de se rendre compte que c'était plus la peine d'aller dans les camps de réfugiés, qu'il fallait commencer à faire le tour des morgues. Et ce moment-là est extrêmement émouvant, donc il y a un des deux pères de famille qui a retrouvé le corps de sa fille et l'autre non. Et c'est comment est-ce qu'il gère l'absence, comment est-ce qu'il gère le fait qu'on ne le retrouve pas et qu'on potentiellement ne pourra jamais les retrouver aussi. Donc c'est des trucs qui sont vraiment puissants à entendre et à voir. Et tout ça est entrecoupé avec des images de comment le Japon réagit à ce qui s'est passé. Et on a ces images, et c'est pour ça que le documentaire s'appelle comme ça, je pense, de Brise-Lame, c'est-à-dire des immenses constructions de parfois 30 mètres de haut qui sont construites face à la mer pour éviter que ça se reproduise. Et donc on a des gens qui disent « oui, c'est moche, on ne voit plus la mer, mais au moins si jamais ça se reproduit, on sera préparé. Donc il y a ces moments, est-ce qu'on se prive de la beauté de la nature parce qu'elle nous a fait du mal? Enfin, il y a beaucoup de réflexions comme ça qui sont très touchantes dans ce film. Et moi, ça m'a énormément touché, et ça dure 68 minutes, c'est très court, c'est à peine plus d'une heure, et c'est vraiment une expérience à vivre. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir le visionner, puisque j'ai contacté la société de production de ce documentaire pour leur demander comment il était possible de le voir. Très gentiment, ils m'ont envoyé un lien de visionnage en tant que journaliste pour que je puisse le regarder. Donc j'ai pu le voir, et vraiment, c'était très beau. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à trouver que c'est beau, hein, puisqu'il a été en compétition française au Cinéma du Réel 2019, c'était sa première mondiale. Et là, il est en sélection pour l'Étoile du Doc 2020. Donc je pense que voilà, c'est un documentaire qui va faire le tour des festivals. En l'occurrence, pour le moment, on ne peut pas le visionner, le grand public ne peut pas le visionner. Visiblement, ce sera bientôt possible de le louer sur le service de VOD Universciné. Donc ce sera, j'ai regardé les prix, normalement c'est 3,99 pour le louer. Malheureusement, c'est pas encore disponible, donc je vous tiendrai au courant quand il sera disponible. J'ai envoyé encore ce matin un mail à la société de production pour leur demander comment il était possible de le voir pour le grand public. Donc voilà, dès que j'aurai plus d'informations, je vous tiendrai au courant. Parce que pour moi, c'est vraiment un documentaire à voir, c'est très touchant.
Très bien. Eh bien, écoute, quant à moi, je vais te parler de jeux vidéo. Hein, une fois n'est pas coutume, je pense que ça va devenir une petite marotte aussi de ces recommandations de fin de Bureau des Mystères. À la base, en fait, je voulais parler de Subnautica, parce que ça collait surtout avec mon sujet. Subnautica, c'est un jeu vu à la première personne qui a un mélange d'exploration aquatique et de survie. Et on découvre ben, justement peut-être aussi des structures, ce genre de choses-là, sous l'eau. Mais en réalité, je l'ai lancé il y a pas longtemps, j'ai 2 heures dessus. Ça aurait été un petit peu malhonnête de vous en parler alors que je connais pas très bien le jeu. Donc à la place, je vais plutôt te parler de Death Stranding parce que c'est un des plus gros jeux japonais déjà de la fin de l'année, si ce n'est le plus gros, et parce qu'il y a des thèmes aussi communs avec nos histoires et surtout avec la tienne en fait. J'en suis environ à la moitié, donc Death Stranding, c'est le nouveau jeu d'Hideo Kojima. Depuis son éviction, son départ de Konami et la perte aussi de la licence Metal Gear Solid. Donc c'est un jeu événement qui est sorti le 8 novembre dernier sur PS4, qui va sortir d'ici l'été 2020 normalement sur PC aussi. Et c'est un jeu événement, comme je disais, c'est un jeu assez simple, en fait, à la base Death Stranding, c'est quand même un jeu assez simple. C'est pas si dur à expliquer, au final. Enfin, si, c'est dur à expliquer, mais c'est un jeu qui reste assez simple, mais qui a un enrobage scénaristique emprunt aussi de beaucoup de symbolique et qui a plein de petites composantes qui viennent s'ajouter à quelque chose de, comme je disais, à la base d'assez simple. On incarne Sam Porter Bridges, un livreur, dans un monde où il y a eu un événement, donc le Death Stranding, qui a détruit de nombreuses zones et qui a laissé, en fait, d'immenses cratères. Les gens ne sortent plus d'espèces de constructions futuristes qui dépassent un peu du sol, mais qui sont en majorité souterraines. Ils ne sortent plus de ces structures-là, notamment à cause d'une pluie, des précipitations qui sont appelées dans le jeu le Timefall, qui en fait détruisent ce qu'elles touchent et surtout en fait font vieillir. Elles font passer le temps très vite sur ce qu'elles touchent. Donc quand il y a du Timefall, vous jouez et qu'il y a du Timefall, vous voyez la végétation grandir, vieillir et mourir de manière très rapide sous vos yeux. C'est assez joli, c'est assez impressionnant. Et donc en fait, ce monde donc dans lequel il y a le Timefall, dans lequel il y a aussi des échoués, est un monde du coup qui est complètement divisé. Ça se passe aux États-Unis, même si le modèle qui a été pris pour le jeu, c'est les décors du jeu, c'est l'Islande. Ça se passe aux États-Unis et nous on incarne un transporteur qui va relier des points en marchant au début, qui va relier des points pour reconnecter en fait certains sites à un réseau qui est apparu ou dont les composantes sont apparues au moment du Death Stranding. C'est-à-dire que c'est le réseau chiral qui passe dans un espèce d'autre monde, un espèce de monde des morts, qui va permettre au final d'utiliser des technologies pour créer ce réseau chiral et reconnecter les différents points des États-Unis entre eux. C'est assez sinistre, et c'est pour ça aussi que je pense que finalement ça colle plutôt pas si mal avec ton histoire, parce qu'il y a deux, trois choses symboliques, je pense, et j'y avais pas pensé, en fait j'ai reconnecté quand tu l'as dit, mais c'est un jeu qui est vraiment post-Fukushima aussi dans son imagerie. Et donc nous, on incarne Sam Porter Bridges qui va devoir marcher littéralement d'un point à l'autre pour reconnecter différents points des États-Unis. Donc quelque chose de très pragmatique, enfin livrer des packages, de la marchandise, de la nourriture, des produits médicaux, des imprimantes chirales pour pouvoir permettre justement aux différents points ensuite d'être connectés et d'échanger, des serveurs, ce genre de choses-là. Et en fait, c'est un jeu qui est une simulation de marche, mais ultra poussé. C'est un espèce, j'en suis venu à me dire au final que c'était un espèce de platformer 3D orienté simulation. Parce que tous les enjeux dans le jeu, ça va être de se déplacer d'un point A à un point B en transportant des marchandises, en répartissant le poids des marchandises sur le dos, et en gérant avec les gâchettes L2 et R2 son équilibre et son poids, et de faire attention à la topographie des lieux dans lesquels on marche, c'est-à-dire vraiment emprunter des chemins, ne pas marcher sur des cailloux glissants, faire attention aux pentes, faire attention à la profondeur de l'eau, faire attention à ce sur quoi on marche, et en fait de surtout pas tirer tout droit. Mais de se créer un parcours, de se créer son propre chemin entre un point A et un point B. Et du coup, forcément, chacun se crée à ce moment-là son propre chemin, son parcours, son itinéraire. Et c'est un jeu de création d'itinéraire entre différents points. Comme je disais, c'est assez simple parce qu'en fait, on relie des points A à des points B, mais en fait, il y a une million de choses qui entrent en ligne de compte. L'usure des bottes, la répartition du paquetage, le type de choses qu'on transporte. Il y a des choses qu'il faut pas renverser, des choses qu'il faut pas immerger, il y a des choses qu'il faut pas placer dans le mauvais sens sur ton dos. Donc, il y a tout un tas de choses qui se rajoutent dans un game design qui, à la base, est pourtant assez simple. Et alors, ce qui me fascine dans ce jeu, vraiment, ce qui me fascine, et ce pourquoi ça fait partie de mes recos, comme je dis, je suis environ à la moitié du jeu, donc j'ai quand même vu pas mal de choses, c'est le level design, en fait. C'est cette création d'environnement qui joue entre le dévoilement et le fait de cacher certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a des micro-reliefs dans le monde, et il y a une météo, une brume qui parfois dévoile des éléments. C'est un jeu. Il y a beaucoup de jeux en open world qui nous mettent à vue des petits éléments du monde pour dire, ah, tu peux aller là, ah, tu peux aller là. Là, le jeu, il te met rien en vue, des fois. Le jeu, il te met rien en vue. Et tu sais pas, tu sais, grosso modo, dans quel sens il faut aller parce qu'on te le dit, et parce que t'as une carte, quand même, mais tu ne connais pas le chemin exact, le meilleur chemin, et en fait, des fois, tirer tout droit, ça va pas être possible parce qu'il va y avoir une falaise, parce qu'il va y avoir un cours d'eau infranchissable, parce qu'il y aura tout un tas de choses. Et en fait, c'est un jeu où tu te crées ton parcours, tu te crées ton propre itinéraire. Et c'est fabuleux. Alors j'étais pris complètement dedans. Je l'ai streamé vendredi dernier. Et je pense que normalement cet épisode va sortir un vendredi 15, si je dis pas de bêtises. Donc je le streamerai ce soir si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie. Et c'est un jeu, au final, ça m'a fait penser à Resident Evil d'une certaine manière, parce qu'il y a une manière de gérer l'inventaire dans Resident Evil qui est assez similaire à celle dont on gère les paquetages dans Death Stranding. Je m'explique. Dans Resident Evil, on a un inventaire qui est limité en place. On a un inventaire qui est limité en place, et on doit choisir son arme, choisir quelques balles, mais on peut pas tout prendre. La clé qui va nous permettre d'accéder à telle porte, ou telle pièce de tel puzzle, ou ce genre de choses-là. Et au final, on va devoir quand même laisser un petit peu de place dans l'inventaire au cas où on récupérerait des choses sur le terrain. Et ben là, dans Death Stranding, c'est un petit peu pareil. On peut transporter une certaine quantité de choses, mais on doit prendre des échelles, on doit prendre des cordes pour escalader certaines montagnes, pour passer certains obstacles, ou pour simplement se défendre face aux quelques ennemis du jeu. Et du coup, ça m'a fait penser un petit peu à cette gestion-là, où il faut souvent en prendre un peu moins que ce qui est nécessaire, quitte à ramasser quelques trucs sur le terrain. Et ça m'a fait penser du coup à la manière de gérer mon inventaire, que j'avais de gérer mon inventaire dans Resident Evil. Et donc du coup, c'est toute cette histoire de feeling dans la manette qui est assez dingue, qui fait qu'on ressent le sol, qu'on ressent le poids, on ressent l'inertie de Sam Porter Bridges. Et une dernière composante aussi, qui est un espèce de multijoueur asynchrone, qui est que on voit, puisqu'on joue tout seul, mais on voit le parcours d'autres personnes dans le jeu, on voit des choses qu'ils ont laissées, et en fait on peut s'entraider. Parfois il y a des choses qui sont compliquées à franchir, et ben quelqu'un va pouvoir commencer la construction d'un pont, et nous on va pouvoir apporter des matériaux qui vont permettre de continuer la construction de ce pont. Et il y a cette espèce d'interconnexion globale, à la fois dans la narration, enfin dans le scénario du jeu, mais aussi entre les joueurs, qui permet du coup de s'entraider et en fait d'avoir un message qui, au final, un jeu qui est très très sinistre, hein, comme je disais, il y a vraiment quelque chose, il y a des références à la catastrophe nucléaire, comme il y en avait déjà dans les précédents discours des jeux de Kojima, il y a des références à des choses vraiment sinistres, mais il y a quand même cette entraide entre les joueurs que moi je trouve particulièrement belle. Tu me parlais de cette femme en robe rouge dans ton histoire. Sur la plage, sur une plage complètement désolée, là, il y a typiquement c'est le genre d'image qu'il y a dans ce jeu, une femme en robe rouge, en talons rouges, qui attend seule sur une plage qui est complètement dévastée par les catastrophes. Et en fait, c'est un jeu très sinistre, mais très très beau. Et donc, du coup, comme j'en suis à la moitié, mais je peux que le recommander parce que je le trouve personnellement fabuleux. Et c'est un jeu qui divise. Si j'ai bien compris, c'est un jeu qui fait pas l'unanimité. Mais si vous aimez l'exploration, si vous avez, il y a certains jeux, si vous les avez aimés pour leur level design, fabuleux level design en 3D, celui-là, vous plaira, assurément.
Écoute, très bien, ça me donne envie d'y jouer. Dommage que je n'ai pas une PS4.
Ou oui, ou PC en 2020,
Ou un PC de gamer de
ou
ouf.
voilà, un PC un
Parce que
petit
je
peu
pense que
costaud.
pour le faire tourner, il va falloir avoir une grosse bécane.
Alors, c'est vrai que tu fais bien de le préciser. Je suis sur une PS4 standard, hein, j'ai pas de PS4 Pro, et le jeu tourne vraiment très très bien sur PS4 standard, et il est vraiment très beau, et il reste fluide la plupart du temps, sauf peut-être un tout petit peu au milieu du jeu, j'ai eu quelques accros au niveau du framerate, mais c'est tout quoi, et il est vraiment très très bien optimisé, donc vous n'avez pas besoin d'avoir, je sais pas s'il y aura besoin d'avoir une très grosse machine, en tous les cas, il n'y a pas besoin d'avoir une PS4 Pro.
Bon, nous, on va vous dire à bientôt. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Charles et Mathias, ou sur notre compte Twitter, @BDMlePodcast, ou dans notre autre émission. Et d'ailleurs, j'y pense, c'est une recommandation qu'on pourrait faire, puisqu'on a parlé de Japon aujourd'hui. Dans Inspiré de faits réels, notre autre émission, notre autre podcast, nous avons fait un numéro
Et
double
oui,
avec la librairie
avec
Yokai,
exactement, oui,
où
tout
nous,
à fait.
dans Inspiré de faits réels, on a parlé de The Grudge, et dans la librairie Yokai, on est allé parler avec Amandine et Mathieu de Sadako. Qui est le monstre en fait que vous retrouvez dans The Grudge. Kayako, pardon. Kayako, c'est dans
Oui,
The Ring.
Sadako, c'est dans, c'est ça, dans The Ring. Mais oui, en plus, c'est
Mais on
un
parle un
aspect
peu de Sadako aussi.
qu'on a aussi volontairement pas traité dans l'émission, qui est la partie yokai, la partie voilà, parce que ça, c'est aussi un truc que eux font extrêmement bien. Nous, c'était pas l'optique ni l'objectif de cet épisode. Mais si ça vous intéresse, allez écouter la librairie yokai.
Oui, exactement. Et sinon, vous pouvez, donc, je l'ai dit sur Twitter, vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord, puisqu'on a pas mal de monde qui vient discuter sur le Discord maintenant, donc ça fait plaisir, on échange des recos culturels, on parle des émissions, donc c'est très cool. Et donc voilà, vous pouvez aussi nous retrouver en librairie avec le livre du Bureau des
Toujours.
Mystères, qui est toujours disponible, avec nos 30 histoires effrayantes et étranges. Et d'ici là, bah, retrouvez-nous bientôt pour un prochain numéro d'Inspiré de faits réels, puis du Bureau des Mystères.